Vous écoutez France Culture.
Lacération, perforation, pénétration ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de Lucio Fontana, de Dan Walsh, de perception, de céramique et même de concept spatial. Avec Sébastien Gocalpe, commissaire de la rétrospective Lucio Fontana, ou comment réévaluer le geste de lacération et de perforation des toiles au regard d'une production baroque de céramique, Manu Farine.
Et comment faire du geste radical de Fontana, percer ou lacérer la toile, donc un geste de conquête, bien plus qu'un geste de destruction.
La session, ce sera Afrobeat ce soir, Mathieu Conquet, avec Seattle No.
La section rythmique, cuivre, chœur et guitare dans le studio ce soir avec Seattle No, militante et chanteuse au parcours hors normes. Deux sessions ce soir en direct.
Afrobeat donc. Et nous recevrons Philippe de Croza qui co-signe l'exposition Wayward of Thing pour une perception perturbée. Manu Farine.
Portrait d'un artiste en commissaire et vice-versa, travailler dans l'un comme dans l'autre cas par la place et la perception du spectateur.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture avec Xavier Martinet qui revient sur les conséquences économiques des grèves de festivals. Et puis on retrouvera les brèves de Benoît Lagaffe. Bonsoir Xavier Martinet.
Incroyable. Bonsoir Laurent.
Lancement aujourd'hui à Paris de la mission de concertation sur l'intermittence et poursuite de la grève dans les festivals. Le Printemps des Comédiens, Montpellier Danse, le Festival de Marseille sont toujours en grève. Mais quelles sont les conséquences financières pour les localités et les régions?
Eh bien, elle pourrait être importante puisqu'on estime en général que les retombées économiques pour de tels festivals sont entre 5 et 10 euros pour un investi. D'ailleurs, lors des grèves de 2003, le manque à gagner pour la seule ville d'Avignon avait été estimé à 23 millions d'euros. Alors aujourd'hui, avec un festival paralysé depuis 5 jours, la ville de Marseille est donc directement touchée. Il y avait 12 000 spectateurs au moins qui étaient attendus pour ce festival. Il devrait être 40 000 attendus pour le festival de jazz 5 contre à Marseille qui devrait commencer le 12 juillet. Je vous propose d'écouter l'adjointe chargée de la culture à la mairie, Anne-Marie Destienne-Dorve. Elle explique tout à l'heure au téléphone qu'elle comprend les intermittents, mais dit-elle, il faudrait aussi faire les comptes.
Demain, il y a encore une réunion, mais rien n'est décidé. En tout cas, les spectacles qui devaient se passer à la minoterie ne se font pas. Alors à cet instant, on pourra le mesurer qu'à la fin du festival. Hein, on en a longtemps parlé avec Apolline. C'est catastrophique financièrement, en tout cas pour sa structure. Le tourisme culturel, qui quand même à Marseille est très important, en tout cas est impacté par des problèmes comme cela. Tous les festivals sont dans la même situation aujourd'hui. Les gens hésitent à commander et à acheter. Les gens réservés, Orange, Avignon, Aix, Marseille, et puis après partir sur la Côte d'Azur. Aujourd'hui, est-ce que ces gens déjà vont venir ici dans le sud? Et après, est-ce qu'ils vont réserver? Tout le monde a en tout cas un taux de remplissage inférieur aux années précédentes.
Et je rappelle que le taux de remplissage était de 91% pour le Festival d'Avignon en 2013. Alors quel sera-t-il aujourd'hui? L'impact des grèves ne sera pas partout le même.
Non, parce que là, ça dépendra de beaucoup de choses. D'abord, du nombre d'intermittents ou de bénévoles sur les festivals, de qui finance le festival, de comment il est financé, par subvention principalement ou bien par billetterie. Par exemple, un intéressant article de La Nouvelle République indique aujourd'hui qu'en Loire-et-Cher, la plupart des festivals sont épargnés, soit parce qu'il y a principalement des bénévoles, soit parce que les municipalités, comme à Blois, ont pris les devants, disons, en négociant avec les intermittents. Restent maintenant les craintes sur ce qu'on peut appeler les gros festivals. Donc à Montpellier, deux festivals sont touchés. À Avignon, c'était 120 000 spectateurs au moins qui étaient attendus. Il y a le festival d'Aix et le festival musical Les Suds à Arles qui attendait au moins 64 000 spectateurs. L'association France Festival, qui en regroupe plus de 80, a justement mis en place le week-end dernier un observatoire des conséquences économiques de la grève. Alors on ne peut rien observer de très concret pour le moment, mais écoutez son président Philippe Toussaint.
Un festival qui a vendu ses places et qui, le soir même, parce qu'il y a une intervention, ne peut plus faire le spectacle, a une perte sèche qui est terrible. Et malheureusement, là, les conséquences, on les verra à la fin de la saison, mais elles peuvent être extrêmement graves. Vous savez, je crois qu'il faut avoir aussi une idée en tête, d'une manière générale, en dehors de quelques très grosses machines, les festivals sont dans une situation de fragilité, à moins de point de vue beaucoup plus grande aujourd'hui qu'il y a 10 ans, du fait que les ressources publiques ont été réduites temps de l'État des collectivités dans bien des endroits. En 2003, un nombre relativement limité de festivals avait été atteint. Les deux principaux ayant été Aix et Avignon. Et là, dans les deux cas, c'est l'État qui avait mis la main à la poche après pour sauver ces deux festivals. Mais aujourd'hui, même s'il n'y avait pas cette question du conflit sur l'intermittence, il y a partout des tensions très fortes et des collectivités qui cherchent à réduire leurs dépenses. Donc on joue littéralement avec le feu aujourd'hui et plusieurs annulations peuvent avoir des conséquences extrêmement désastreuses pour un festival.
Il faudra donc observer attentivement comment les collectivités gèrent les conséquences économiques de ces festivals. À Montpellier, la communauté d'agglomération subventionne largement Montpellier Danse. C'est le conseil général qui subventionne le printemps des comédiens. À Marseille, la subvention municipale est très forte puisqu'il s'agit d'1,3 million d'euros pour 1,9 de budget. L'impact pour la ville sera donc important.
Merci Xavier Martinet. On se retrouve demain pour la suite de ce journal de la culture. Les brèves, Benoît Lagane ?
Mais on reste un instant encore sur le dossier des intermittents, puisque donc c'est aujourd'hui que le Premier ministre remettait sa lettre de mission à trois personnalités chargées de réfléchir d'ici la fin de l'année à une refonte du régime d'assurance chômage des artistes et des techniciens. Ce trio, composé du médiateur, le député socialiste Jean-Patrick Gilles, l'ex-directrice du Festival d'Avignon Hortense Archambault et l'ancien directeur général du travail Jean-Denis Combrexelle. Et dans sa lettre de mission, Manuel Valls demande entre autres d'examiner, je cite, l'articulation souhaitable entre solidarité interprofessionnelle et le rôle de l'État en tant que soutien à la création artistique, mais exclut, je le cite encore, l'option de création d'une caisse autonome.
L'Égypte interdit trois chaînes irakiennes sur son territoire.
Oui, trois chaînes diffusées sur le satellite égyptien Nilsat, qui émet au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, sont interdites officiellement depuis la semaine dernière en Égypte. Alors à Bagdad, le gouvernement irakien estime que la couverture de l'information par ces trois chaînes jugées favorables aux sunnites attiserait les tensions communautaires. Officiellement, si la décision de l'autorité égyptienne de régulation n'a aucun lien avec les réclamations de Bagdad, selon l'agence Reuters, un responsable aurait affirmé sous le sceau de l'anonymat que ces deux éléments seraient liés.
Et pendant ce temps-là, à France Culture.
Eh bien, on est ravis pour nos amis de la Fabrique de l'Histoire, puisque le magazine quotidien de France Culture, animé par Emmanuel Laurentin, a été une nouvelle fois récompensé hier soir au New York Festival. La médaille d'argent dans la catégorie Histoire, Information et Documentaire a en effet été attribuée au documentaire de Perrine Kervran et Françoise Camard, Danser quand même, les bals clandestins en France pendant la guerre, un documentaire diffusé le 7 janvier dernier. Bravo à elle.
Et pour terminer, bien la petite histoire du soir.
Eh bien ce soir, Laurent, une petite histoire de short message service très personnel et d'entre gens politico-médiatiques, ou comment à l'occasion de l'émission spéciale Fête de la musique de France 2, diffusée en direct et en public depuis Montpellier, devant des milliers de spectateurs et de téléspectateurs, l'animateur intermittent préféré des Français du samedi soir a décidé d'utiliser son micro et la caméra pour interpeller le président de la République à propos du conflit qui secoue le monde artistique en ce début d'été. Il vous raconte.
À titre tout à fait personnel, je voudrais dire que dans ce conflit des intermittents, on sait qu'il y a des excès. Il faut s'attaquer aux excès et surtout pas toucher aux choses normales. En gros, pour être plus trivial, il faut faire la chasse aux pourris, mais il faut laisser les gens normaux et arrêter de les emmerder. Et ce que je voudrais dire ce soir, moi, en votre nom, je voudrais juste faire un message très personnel au président de la République, mon cher François, puisqu'on se tutoie, qu'on se connaît depuis 10 ans, chaque fois qu'on a parlé ensemble, tu m'as promis, François, tu m'as promis que l'humain prendrait le pas sur tout. Alors, j'ai toujours eu confiance en ta parole et aujourd'hui, que ce soit pour les intermittents ou pour tous ceux qui galèrent, si tu penses vraiment que l'humain doit prendre le pas sur tout, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est maintenant qu'il faut le faire.
Eh bien, il avait mangé de la sardine.
Effectivement, Patrick Sébastien. Alors, quelques jours après cette intervention, bien Patrick Sébastien a reçu une réponse très personnelle de la part de François, son ami de 10 ans. Et si l'on en croit le monsieur loyal du plus grand cabaret, eh bien Hollande lui aurait répondu, je le cite, que l'humain que Patrick lui réclame, il en sera le garant. Aussi bien pour les intermittents, lui dit-il, que pour les autres métiers hors spectacle où les gens galèrent. Eh bien ça, c'est une réponse qui laisse sans voix. Après ça, c'est Sébastien l'imitateur qui va galérer la prochaine fois qu'il va parodier le président.
Je suis un président normal. Je peux être autoritaire. Faut chier, Merkel. Et puis après, président de la République.
Mais il imite qui?
François Hollande.
Pas du tout. On dirait Jean-Marie Le Pen. Oui, qu'est-ce que vous disiez? Mathieu Conquet, on vous entend pas.
On aurait dit aussi François Mitterrand.
Oui, les... oui, exactement. C'était très, très étrange.
Enfin, version bébé de show, mais...
Ouais, Kermit, ouais. Plutôt Kermit.
Oui, voilà.
Très conceptuel. Magnifique.
Magnifique.
Est-ce qu'il y a des réactions à ce que l'on vient d'entendre de la part de nos invités? Tout le monde baisse la tête, on se croirait à l'école. Alors on commence.
19-20, le rendez-vous.
Rendez-vous.
C'est sur France Culture.
Plateau rétrospective avec vous, Sébastien Gocalp. Vous êtes le commissaire de la grande rétrospective Lucio Fontana au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Lucio Fontana, peintre, sculpteur italien, né en 1899 en Argentine, disparu en 1968 avec un parcours atypique qui va faire de lui à la fois l'un des premiers artistes abstraits italiens des années 30 et puis un céramiste qui exploite toutes les possibilité traditionnelle de la sculpture polychrome. Et bien sûr, Lucio Fontana est surtout identifié au mouvement spatialiste italien dont il a été le chef de file dans les années 50, avec un geste radical, percer ou lacérer la toile. Alors une fois n'est pas coutume, on va commencer par la dernière salle de l'exposition, la 14e, celle des Teatrini, Manu Farine.
Alors, ce sont des grandes toiles que Fontana réalise entre 64 et 66 à peu près. Hein. Là, dans l'exposition, en tout cas, il y en a une jaune, bleue, blanche, anthracite, et qui sont des toiles trouées, pas toutes, mais trouées, avec à l'avant-plan des reliefs en bois laqué. Et on interprète souvent ces tableaux comme étant une relecture synthétique des thèmes de Fontana, c'est-à-dire qu'est-ce que ça voudrait dire et pourquoi, à ce moment-là, a-t-il eu le besoin d'opérer à cette synthèse ?
Vous commencez donc l'exposition par la fin.
Exactement.
Donc vous révélez un peu la dernière salle, mais bon, peu importe. C'est, en fait, c'est une sorte effectivement d'œuvre rétrospective où il reprend, parce que Fontana, à chaque étape, reprend tout ce qu'il a mis en place avant. Donc là, il reprend son système des trous, ses boules en terre qu'il appelle des natura. Et donc, ce qui est étonnant aussi, c'est que Fontana fait ses tableaux à 65 ans, donc c'est un artiste qui est maintenant arrivé, reconnu, etc., et qui repart dans une autre direction. C'est ce qui est d'ailleurs la force dont on a pu s'apercevoir de Fontana, c'est cette capacité en fait à remettre toujours sur le métier, à se renouveler sans cesse. Et c'est pas parce qu'il a découvert ces toiles fendues dont on va reparler, ou ces trous, ces environnements, ces céramiques, qu'il se cantonne à un style qui lui serait propre et pour lequel il serait reconnaissable. Et donc à 65 ans, il se décide à faire des toiles pop avec des couleurs industrielles, flash, un peu liées au design italien et qui sont ces dernières séries, qui sont des petits théâtres, puisque Fontana en fait est un artiste baroque et qui donc travaille beaucoup justement sur le geste, la représentation, l'espace, le mouvement. Et donc c'est une nouvelle manière pour lui de traiter ces éléments.
Alors il y a un geste de Fontana, on le disait tout à l'heure, qui a recouvert tous les autres, c'est un geste radical, interprété comme un geste de violence, qui a pris plusieurs formes, c'est trouer la toile ou la griffer, la lacérer. Ce geste commence en 1949, Fontana a 50 ans à l'époque, et ce geste va seulement l'identifier, mais être aussi la source de malentendus. Et ce que dit l'expo, c'est que trouer, lacérer, eh bien ce ne serait pas détruire, mais au contraire, c'est conquérir. Comment vous expliquez justement ce malentendu qu'il y a eu jusque-là, Sébastien Gocalp?
Alors,
pourquoi conquérir plus que détruire en lacérant une toile?
Pour lui, en fait, c'est un appel à la contemplation. Donc, vous avez la surface de la toile qu'il a lacérée. Et c'est les toiles les plus connues parce qu'effectivement, il en a fait beaucoup, même si c'est à la fin de sa vie. Et c'est les toiles qui sont les plus percutantes parce qu'on voit une toile déchirée, on se demande qu'est-ce qui s'est passé, catastrophe, etc. Alors qu'en fait, c'est vraiment effectivement un geste extrêmement violent. Parce que c'est comme briser un interdit, celui de déchirer le support sur lequel vous travaillez. C'est un geste aussi assez sexuel parce qu'il y a vous avez commencé votre émission avec cette idée de pénétration. Et c'est vrai qu'on le voit avec le cutter, il pénètre, il fend, et ensuite il passe les mains à l'intérieur des fentes pour bien écarter, bien mettre en forme. Donc il y a cette dimension à la fois violente, sexuelle, et puis cette dimension de contemplation, parce que Fontana met en place cette série de fentes à un moment où l'homme en fait va dans l'espace. Et l'homme s'aperçoit qu'il peut quitter la Terre, voir la Terre non plus du haut de ses 1,80 m, mais au contraire depuis l'espace. Et il y a une sorte de changement de focale totalement inédite. Et il y a un appel de l'infini qui va beaucoup perturber Fontana. C'est pour ça d'ailleurs qu'il appelle son mouvement le spatialisme. Cette idée d'aller dans l'espace, et d'ailleurs tous les philosophes d'époque le remarquent. Et donc cet appel à la profondeur, à l'espace infini.
Comment vous regardez ce geste, vous, Philippe de Crozat, artiste justement, qui, dont le travail est sur la perturbation des perceptions. Comment vous regardez le travail de Lucio Fontana?
Il est central et il est très important aussi peut-être aussi pour toute la succession et l'importance de Fontana pour des Francesco Lo Savio ou des personnes qui, je dirais, personnellement m'ont énormément inspiré et nourri. Je pense que là, dans l'exposition, ce qui est fascinant, c'est de commencer presque... à l'inverse, je commencerai par le début, c'est-à-dire par les les céramiques qu'on connaît peut-être un peu moins et qui révèle une forme de puissance. Et déjà, ce geste, de manière assez fascinante, même sur des sujets comme un petit crabe ou des natures mortes complètement étonnantes. Donc, ce qui est fascinant, c'est à la fois de retrouver cette capacité, aussi bien au début ou à la fin, aussi bien sous l'eau que dans l'espace, et avec une position qui reste manifeste, qui est à tous les niveaux et à tous les moments.
Manu Farine.
Dans un couloir qui mène d'une salle à l'autre, Sébastien Gokalp, vous avez placé une série de photographies de Hugo Moulas de 1964, qui sont assez connues. Hein. On y voit Fontana devant une toile exécutant une fente verticale au cutter. Or, c'est une série qui est une pure mise en scène, hein, puisque Fontana avait refusé de se laisser photographier pendant qu'il exécute une fente, mais il a accepté en revanche de faire semblant. Qu'est-ce qu'une telle série raconte finalement, à la fois le refus de Fontana de se laisser photographier pendant qu'il travaille et la mise en scène, finalement? Est-ce que ce n'est pas là aussi tout le malentendu qu'il y a pu y avoir autour de Fontana qui se joue dans cette série?
C'est effectivement une série assez étrange, parce que c'est une très belle série de photos. D'ailleurs, on l'a mis à l'entrée de l'exposition. On voit Fontana seul devant sa toile avec un cutter et s'apprêtant à faire le geste.
Il est très incroyable. Beau, il est magnifique.
Voilà, c'est un espèce de toréador ou de danseur de flamenco, quasiment toujours très bien habillé. Et puis, il va faire le geste, un peu comme Pollock, d'ailleurs, tout d'un coup, barbouille sa toile au sol. Il y a une espèce de théâtralisation qu'a voulu Hugo Moulas dans cette série. Et en même temps, c'est effectivement une reconstitution, parce que chez Fontana, il n'y a pas du tout de dimension métaphysique du geste de percer la toile. C'est quelque chose qu'il fait quasiment mécaniquement, comme pourrait le faire un tapissier. Donc il prépare sa toile le matin, il la laisse sécher, et puis l'après-midi, il vient avec son cutter, il se concentre quelques minutes et il lacère sa toile. Et après, il l'a mis en place et il installe une petite gaze noire derrière, ce qui donne cette impression d'infini. Et donc voilà, Fontana n'est pas du tout dans la dimension de la performance ou de la mise en scène, ou c'est au contraire quelqu'un qui est assez humble et qui ne prétend pas du tout faire quelque chose de spectaculaire, mais au contraire propose une œuvre qui est un support effectivement à l'évasion, à la rêverie, à tout ce que vous voulez, mais lui-même en tant qu'artiste est une position assez en retrait.
Donc pas un geste de performance que celui de lacérer la toile. Philippe de Crozat parlait à l'instant des céramiques qui ouvrent l'exposition. Il y a toute une dimension de sculpteur chez lui, puisque c'est par la sculpture qu'il commence. Pourquoi il passe à la toile, d'après vous?
Alors en fait, Fontana est un sculpteur, ouais. Et même ses toiles sont des toiles sculptées. Bien effectivement, sûr. Le fait de percer, et vous demandez pourquoi il passe à la toile, c'est que après la Seconde Guerre mondiale, il était en Argentine pendant la Seconde Guerre mondiale, il revient en Italie, son atelier est détruit, le régime italien est complètement détruit, le pays est détruit, et donc il passe à une dimension, il s'aperçoit qu'il faut changer quelque chose, il dit l'art est éternel mais il ne peut pas être immortel. C'est cette idée en fait que voilà, vous pouvez faire n'importe quelle sculpture, n'importe quelle toile, dans 500 ans, dans 1000 ans, ça sera disparu, détruit, mais ce qui va rester, c'est cette envie, ce geste, cette envie d'art. Et donc Fontana va passer à des œuvres beaucoup moins incarnées, beaucoup moins matérielles. Autant lui qui était célèbre pour ses céramiques fantastiques, enfin qui sont une des découvertes ou redécouvertes de l'exposition.
Oui, parce qu'il était très célèbre pour cela à l'époque.
Voilà, c'était sa manière de vivre, et puis c'est fantastique, enfin c'est des œuvres. Évidemment, j'engage tout le monde à venir voir l'exposition, mais c'est des très belles objets qui, comme ça, qui brillent, qui sont des contre-couleurs, etc. Et puis il revient d'Argentine et il se dit c'est plus possible, et il lance donc ce mouvement spatialiste, qui est à la fois en rapport à l'espace et en rapport aussi à cette manière d'occuper l'espace autour de lui. Et donc, le fait de prendre une toile, de la percer, il quitte la sculpture même, l'objet, mais il ne va pas non plus dans la toile, il va dans la toile qui est à la fois support et toile. Et il y a cette grande liberté où finalement, ce qui reste, c'est ni la sculpture ni la toile, mais juste le geste de traverser.
Manu.
Vous parliez d'une dimension un peu métaphysique du travail de Fontana. Un des chapitres de l'exposition est titré, c'est vers la fin, « La fin de Dieu et la Trinité ». Trinité comme le titre donné à un triptyque blanc réalisé en 1966. Et en exergue une phrase de Fontana. « Qui sait comment est Dieu, non? J'avais fait ses trous. Dieu est rien, mais il est tout, non ?» Comment est-ce qu'il faut comprendre cette phrase? Et finalement, de quel ordre était véritablement le lien entre Fontana et la religion catholique, sachant qu'il a malgré tout beaucoup utilisé son iconographie? On peut le voir même dans les céramiques.
Ouais, c'est une très bonne question. D'ailleurs, on a beaucoup discuté avec la co-commissaire, donc Chorakat Kazarian. Et l'idée, voilà, c'est ça. Est-ce que Fontana est quelqu'un de religieux? Et quand il est argentin, italien, sincèrement, enfin, vous avez un héritage religieux très présent. Il va faire beaucoup d'œuvres religieuses, des crucifix, des chemins de croix, une porte pour le dôme de Milan qui ne va pas être retenue. Et il fait cette grande œuvre qui s'appelle une Trinité. Et ces œufs, ces célèbres œufs, qui sont ses œuvres les plus recherchées actuellement, qui va appeler la fin de Dieu. Et en même temps, Fontana laisse l'œuvre ouverte, c'est-à-dire que c'est le support de discussion et de réflexion, mais lui-même ne va pas donner de sens à son rapport à la religion ou aux religieux. Et il dit, mais ce qui semble d'ailleurs logique, il dit, mais on est aux années 60, on envoie des Spoutniks dans l'espace, on ne va pas représenter Dieu avec une barbe sur un trône, c'est absurde. Mais il y a quand même une dimension comme ça assez religieuse. Ses œuvres s'appellent athésée, c'est-à-dire attente, presque métaphysique, sans qu'il jamais précise d'ailleurs exactement quelle est sa voie qu'il décide. Mais voilà, une dimension extrêmement forte et métaphysique de la place finalement de l'humain sur Terre ou dans le temps.
Au centre de l'exposition, vous avez placé un concept spatial, c'est le titre de ses œuvres, à part, daté de 1952. Ce sont des plaques en fer verni, jaune industriel, trouées bien sûr, assemblées comme des fleurs et destinées à être posées au sol en extérieur, de préférence d'ailleurs sur de l'herbe verte. C'est une œuvre à part dans son parcours, Sébastien Gokalp ?
Ah oui, tout à fait. Oui, c'est la seule œuvre qu'il ait faite. C'est une œuvre, finalement, une sculpture horizontale, ce qui va se développer après dans les 60 avec les minimalistes comme Carl André, mais là, c'est 10 ans avant, qui était en fait conçue pour être dans un musée, mais la première fois qu'elle a été exposée, ça prenait trop de place. Donc voilà, ils l'ont mis dehors dans le jardin, et puis c'est resté longtemps sur cette méprise dans le jardin. Mais c'est une œuvre vraiment qui voilà, change effectivement votre relation à l'œuvre. Une sculpture, effectivement, c'est fait pour commémorer, pour honorer, etc. Et donc là, on se retrouve au contraire projeté en avant au sol avec cet objet. Il va en faire qu'un, verni avec du vernis de carrosserie de voiture. Donc déjà, il y a ce rapport à l'industriel assez visionnaire chez lui. Et comme souvent chez Fontana, en fait, c'est un artiste qui est un artiste de la liberté. C'est-à-dire qu'en gros, quand il trouve quelque chose, il passe à autre chose. Voilà, il peut capitaliser, réemployer, mais ça n'intéresse pas de multiplier à l'infini sa découverte.
Philippe de Croza, outre les céramiques que vous citiez tout à l'heure, est-ce qu'il y a d'autres œuvres qui vous ont marqué dans l'exposition, dans la rétrospective ?
Je pense dès le moment où il y a le déplacement et le dépassement surtout du tableau, c'est-à-dire avec tous les ensembles, les pénétrables, les installations qui intègrent le spectateur et qui mettent aussi en scène le spectateur.
Parce qu'il y a des environnements dans lesquels on peut rentrer, hein, dans lesquels le spectateur peut circuler.
Et je pense que peut-être même le dessin au néon qui est suspendu dans l'entrée du musée est déjà un dispositif qui, rien que par l'attitude et le regard qui est obligé comme ça vers le plafond et vers l'espace environnant, fait que l'œuvre se diffuse, se dématérialise et propose aussi toute une nouvelle situation qu'on retrouvera par la suite, même avec les cinétiques, le groupe Zéro ou une autre histoire qui prend en charge complètement ces enjeux.
Alors oui, justement, il y a un épisode qui est passé assez rapidement dans l'exposition. D'ailleurs, il y a très peu d'éléments biographiques dans l'exposition.
Pour quelle raison d'ailleurs ?
Je ne sais pas quel événement.
Non, mais d'abord,
non,
avant l'événement.
C'est vraiment sur la vie de Fontana qui est vraiment évacuée. C'est-à-dire que vraiment, vous attardez exclusivement sur l'œuvre de Fontana, sans qu'il n'y ait aucun élément biographique.
On a pris le parti de mettre en valeur les œuvres. Donc, on a effectivement évacué tout ce qui était manifeste, texte, contextualisation de la vie. Personnel de Fontana. Il y a les supports d'aide à la visite qui permettent de donner quelques pistes. Il y a en plus Fontana, c'est un personnage qui finalement a une vie entre l'Argentine et l'Italie. C'est pas une vie extraordinairement fascinante. Alors après, il y a des éléments biographiques qui sont importants, notamment le fait qu'il ait beaucoup supporté le fascisme italien, après la guerre, en revanche, il s'est complètement retiré de la vie politique. Et voilà, mais on a pris le parti effectivement de traiter beaucoup dans le catalogue, mais de proposer ses œuvres parce qu'il y avait beaucoup d'œuvres et on voulait pas non plus disperser le visiteur sans lui cacher effectivement parce que c'est des éléments qui sont importants, mais sinon voilà. Ces éléments.
Manu ?
Oui, peut-être juste une question qui peut s'adresser aux deux, hein, Philippe de Croza et Sébastien Gokalp. Justement, un épisode qui est passé assez rapidement dans l'exposition, c'est son passage pendant la guerre à Buenos Aires. Donc, vous avez rappelé tout à l'heure, il est né en Argentine, où il va enseigner. Et dans son atelier, il va y avoir notamment de futurs représentants de l'art cinétique sud-américain. Je pense notamment à Julio Leparque, qui a été élève de Fontana. Qu'est-ce que cette génération-là doit à Fontana ?
Ce que disait Philippe, c'est-à-dire que Fontana, c'est un artiste du 19e siècle, il est né en 1899. Et c'est quelqu'un qui va libérer l'artiste de la matière, c'est-à-dire qu'il va passer de ces céramiques, de ces sculptures, vers un œuvre du geste, de ce néon dématérialisé, et où finalement la lumière, les formes vont prendre cette liberté qu'on va retrouver beaucoup dans les artistes du groupe Zéro des années 60, où le mouvement, la lumière vont devenir œuvre en soi et non plus juste une illustration.
Oui, mais l'époque de Benoît Zer, c'est aussi la période de théorisation pour Fontana. C'est là qu'il va écrire son manifeste blanc, avec ses étudiants d'ailleurs. Qu'est-ce que ce texte met en place ? C'est quoi ce manifeste blanc ?
46.
Le manifeste blanc met en place en fait la rupture, c'est-à-dire que Fontana voilà, est hors d'Europe, mais il voit que le monde change et il dit on peut plus peindre avec de la peinture sur une toile et faire la sculpture à du plâtre, il faut maintenant travailler avec le son, la lumière, le mouvement. Et ce qui est d'ailleurs surprenant dans ce manifeste, c'est que lui va continuer à peindre sur de la toile et travailler en plâtre, mais il a ce désir de changer. Il dit maintenant il faut travailler avec les ondes radar, il faut être de son temps. En fait, il se projette comme un scientifique. Il dit les scientifiques font changer le monde et l'artiste doit être la même chose. Et comme ça, dans la lignée futuriste, parce qu'il adore ce modèle, c'est quand même le modèle futuriste, il va sortir 6 manifestes au total avec les spatialistes qui mettent en place toutes ces réflexions sur comment concevoir l'art.
Vous signez, Sébastien Gokalp, un long papier sur la réception internationale de l'œuvre de Fontana, pardon, excusez-moi, j'avais un petit trou, qui se passait plutôt bien en France. Si, en Italie, en Allemagne, beaucoup.
C'est Patrick et Sébastien qui m'écrit les répliques.
Il serait régalé, ça. En revanche, beaucoup moins bien aux États-Unis. Qu'est-ce qui résiste aux États-Unis à la réception de l'œuvre de Fontana ?
Vous avez une question assez pointue. En fait, effectivement, Fontana travaille dans l'Italie détruite de l'après-guerre. Donc lui, il va être connu comme céramiste à l'époque. Et il va vivre de ça. Et puis, il va faire un essai de percer aux États-Unis, notamment.
C'est
avec
le mot qui convient aussi.
Il écrit tous nos dialogues, formidable.
Et donc avec le soutien d'un grand critique d'art qui va lancer le pop, qui est Laurence Alloway, et un autre français qui s'appelle Michel Tapier, et il va exposer une série absolument kitschissime qui s'appelle Venise, où il s'appelle Coucher de lune à Venise, Mariage à Venise, voilà. Et là il arrive en plein Amérique, qui est en train d'établir elle son école new-yorkaise très solide, et qui finalement, voyant ce folklorique italien débarquer, va se demander, alors qu'on est en plein pré-minimal, de quoi on parle. Et donc ça va. Et en plus, les Américains, à cette période, c'est juste avant la Biennale de Venise 64, où Rauschenberg gagne le prix, où les Américains s'établissent. Ils n'ont pas du tout envie de montrer qu'ils s'inspirent des Italiens. Mais voilà. Mais ceci dit, Warhol va être acheté par Philip Johnson, qui est le directeur du MoMA, par Andy Warhol. Donc quelque part, il va marquer la scène américaine, mais beaucoup moins que ce qu'on aurait pu imaginer.
Le rendez-vous, 10h, la session.
Sébastien Gokalp et Philippe de Crozat, on vous retrouve dans quelques instants, mais tout de suite c'est la séquence musicale, la session, l'actualité musicale, Mathieu Conquet.
Elle arrive tout juste de l'avion depuis Conakry, c'est Seattle No, chanteuse guinéenne et femme de tête. Son album précédent, My Life, ça ressemblait à une biographie sonore mouvementée. Elle évoquait son enfance à Freetown, en Sierra Leone, l'exil forcé au moment de la guerre civile. C'était entre 1991 et 2002, les premières scènes dans les cabarets de Conakry. Elle parle de violences domestiques, de mariages forcés, d'excision et aussi des questions de paix et de la place de la femme. Et c'est un thème qui est aussi au centre du nouvel album African Woman, un album qui lui aussi est un tour de force, puisque pour une fois, une femme s'empare de l'afrobeat, courant incarné par Fela Kuti dans les années 70, funk, jazz, politique, yoruba, pidgin anglais. Il est question de corruption policière ici avec African Police. Je donnerai les noms de tous les musiciens, ils sont très nombreux ce soir dans le studio, en direct sur France Culture, Seattle No, on vous écoute.
Africa. police gets plenty problem. African police almost on beggar. They go work for rain, they work under sun. Uniform done the fed, shoes safe done the bed. We the beg una oh for help of police them eh. We the beg una oh for help of police them eh.
Sur France Culture, avec elle ce soir, c'est Dolfo Squadio et Indy Dibongué qui sont aux guitares. Valérie Assouan est à la basse, Michel Dibo à la batterie, Emmanuel Nubomo au sax. Et pour les chœurs, ce sont Valérie Bellinga et Valérie Delgado. On les retrouve tout à l'heure pour un deuxième titre. L'album African Woman, il est sous le label Louz Africa. Il y aura aussi un concert le 17 juillet au Jardin Suspendu du Havre.
Le rendez-vous.
Plateau optique avec vous, Philippe de Croza, artiste suisse, repéré au début des années 2000, au cœur d'une jeune scène nourrie à l'abstraction suisse des années 60 et 70, au rock, au graphisme et à la science-fiction. Vous co-signez aujourd'hui en tant que commissaire l'exposition Wayward of Seeing au plateau, c'est le FRAC Île-de-France à Paris, une exposition collective qui s'intéresse aux différentes expériences de la vision. Quels indices donne le titre, qui est plus complexe qu'il n'en a l'air?
Alors, tout d'abord, l'exposition est co-signée avec Mathieu Copland et qui on va faire un programme d'exposition sur maintenant une année et demie encore au plateau. Et comme à chaque fois, on invite un artiste à produire un manifeste, ce qu'on appelle un manifeste, qui va donner au fait le titre de l'exposition. Donc celui-ci a été le fait de Dan Walsh, qui a une part très importante dans l'exposition et qui a décidé d'utiliser cette phrase, ce jeu de mots ou cette perturbation du sens qui parle de Waywards of Seeing, qui serait une dérive de la vision et qui passe à une dérive ou une perturbation du sens. Donc quelque chose qui s'attaque à la vision mais qui va finir par proposer des lectures multiples.
Manu Farine.
Justement, la figure centrale de l'exposition, c'est cet artiste américain Dan Walsh, hein, qui est un artiste émergé dans les années 90, qui présente dans l'exposition toute une série d'œuvres plus ou moins participatives autour de la question de la perception. Je pense notamment à une série d'objets placés face à des peintures de Francis Baudvin, qui sont donc des jumelles, un télescope, une sorte de plaque de métal tramée, et même un portrait peint, troué au niveau des yeux, un masque à hauteur du regard aussi. Qu'est-ce que Dan Walsh met en place pour que vous en fassiez comme ça le fil rouge de cette exposition?
Alors je dirais que c'est un des fils rouges. On n'a pas, avec Mathieu Copland, c'était très important de ne pas mettre quelqu'un au-dessus ou
plus en évidence. Là quand même, il donne le titre de l'exposition.
Il donne le titre et ensuite c'est une sorte, il produit des véhicules par lesquels on peut regarder l'exposition. Mais je dirais qu'il y a deux salles qui ont été non touchées, dans lesquelles volontairement on a demandé à Dan Walsh de ne pas intervenir, qui sont les deux salles de la Boyle Family, qui sont plutôt deux salles historiques où on monte des ensembles complets, des années 80, enfin qui sont deux ensembles non touchés. Donc là, tout à coup, Dan n'intervient pas. Et il intervient, je dirais, sur toutes les autres salles, avec une règle du jeu précise, c'est que sans attaquer l'intégrité des œuvres et des ensembles montrés, il va pouvoir permettre de voir par son prisme et d'avoir une perturbation qui permet d'avoir une autre vision, une autre approche de ses œuvres.
C'est lui qui donne le point de vue sur les œuvres à regarder. Exactement. Alors vous parlez justement de la Boyle Family. Alors la Boyle Family, c'est un drôle de collectif anglais. C'était des parents et leurs deux enfants, nés dans les années 60, ça c'est les enfants. Vous présentez la World Series au départ, c'est une immense carte du monde. Et le père invitait à l'époque les gens à lancer des fléchettes, les yeux bandés. On était en 68 ou en 69. Quel était le projet de cette performance en fait, Philippe de Crozat?
Donc c'est effectivement les deux événements fondateurs, 68-69. Mark Boyle et John Hills invitent leurs amis et des spectateurs à lancer ces fléchettes, les yeux bandés, sur la carte du monde afin de désigner par le fruit du hasard environ 1000 lieux sur la carte dispersés. Eux vont se charger d'aller étudier et selon des procédures assez précises. C'est-à-dire qu'ils se fixent un certain nombre de règles qui sont tout d'abord l'enregistrement de ce lieu trouvé, la photographie, le film. Tous ces médiums vont être employés pour enregistrer, pour témoigner de ces différentes situations. Et après, en termes d'objets, il y a toute une production qui se développe, qui sont des sortes de bas-reliefs, qui sont presque des empreintes positives, des fragments du réel reproduits, et qui deviennent des tableaux avec ce magnifique renversement qui serait d'une position à l'horizontale qui devient verticale.
Comme un morceau de trottoir, par exemple.
Là, c'est un morceau de trottoir qui a été comme prélevé et placé sur le mur à la verticale.
Comme prélevé, toute l'histoire provient de, je dirais, prélèvement, mais rapidement, à partir des années 70, il s'agit de reconstruction. Donc, il s'agit quand même d'interprétation du réel, de figuration, d'essayer de traduire ce réel en matériaux et de le matérialiser et de faire ce relèvement qui est assez extraordinaire dans cette situation. Et ça, sur une quantité de lieux, une dispersion, avec des données techniques, des fois, qui sont étonnantes, car ils doivent résoudre des transpositions qui sont celles de l'eau, du sable, de trottoirs, et tout ça géré par une dimension qui est celle du hasard.
Manu.
Au centre de l'exposition, une pièce de 1982 de l'artiste new-yorkais Steven Parrino, qui est disparu accidentellement en 2008, qui était en fait un téléviseur assez petit, posé sur un tas de briques. À l'écran, il y a de la neige cathodique, hein, en continu. Et au centre de l'écran, sur l'écran, un rectangle monochrome noir, peint au spray, j'imagine, de façon à obstruer partiellement la vision de l'écran en question. Parrino, c'est quelqu'un qui a été largement diffusé en Suisse, qui aura eu un impact très, très déterminant sur toute une génération à laquelle vous appartenez. Qu'est-ce qu'une telle figure représente ou a pu représenter pour vous, Philippe de Crozat, comme artiste?
C'est quelqu'un qu'on a eu la chance de rencontrer dans les années 90 et avec qui on a eu la chance de travailler, dont on a eu la chance de voir son travail, de voir un certain nombre d'expositions importantes. Dans le cadre d'un collectif que gère à Lausanne qui s'appelle Circuit, on avait réalisé cette exposition en 2002 qui prenait comme point de départ tout l'aspect performatif de Steven Parrino. Donc on avait réalisé cette exposition et c'est à ce moment-là au fait qu'il avait réactivé cette pièce qui avait été réalisée en 82 mais détruite et qu'on avait donc réactivé en 2002 à Circuit. Et c'était des gestes très importants, mais aussi une connexion avec le monde de la musique, avec la dimension performative sonore liée à la dimension picturale et l'abstraction, une sorte de connexion comme ça extrêmement importante pour... j'imagine, toute une génération.
Parce que c'est quelqu'un qu'on connaît surtout hein, pour avoir travaillé justement sur la peinture, c'est-à-dire en tordant littéralement ou en déchirant ou en froissant des toiles. Ou
avec
des
perforations aussi.
Voilà, en jouant avec le cadavre supposé de la peinture dans ces années-là, c'est-à-dire dans les années 80.
Alors, votre propre travail, Philippe de Crozat, est une réflexion sur la peinture, sur l'abstraction, mais en utilisant des références qui vont du rock au cinéma, en passant par la science-fiction. En quoi ces références qui étaient extérieures au monde de l'art vous ont aidé à penser la peinture ?
Alors ça, c'est un peu une question historique. J'imagine de tout temps, au final, l'abstraction, la peinture abstraite a intégré, a été extrêmement poreuse et inclusive aussi par rapport aux autres champs culturels. Donc, ça a été peut-être une dimension importante des années 90 de l'affirmer. Aujourd'hui, il me semble que c'était quand même un petit peu naïf de le penser à cette époque-là et que c'est peut-être juste la dimension des pratiques picturales qui sont liées à d'autres contextes et qui doivent et qui peuvent assimiler ou s'intéresser et intégrer des éléments d'autres contextes culturels.
Mais qu'est-ce que le cinéma, le rock et la science-fiction vous permettaient ?
Sur la question pour moi, le cinéma expérimental est très important pour repenser ou pour penser la peinture en termes de structure, de définition d'espace, de réflexion sur la lumière, sur la projection, sur la position du spectateur. Enfin, c'est des arts qui ont été forcément liés et qui appartiennent aux mêmes racines ou aux mêmes histoires.
Quelle est la première œuvre que vous ayez réalisée, Philippe de Crozat ?
Ouh là là, ça, je n'en parlerai pas ici.
Alors, la deuxième ?
La première dont vous puissiez parler.
Alors, la première dont vous puissiez parler, celle que vous revendiquez, vous pouvez assumer.
C'est assez difficile. Je pense qu'à un moment donné, j'envisage un ensemble de pratiques, de travail. Je pense qu'à un moment donné, même justement à Lausanne, en étant étudiant aux Beaux-Arts et en réalisant déjà des expositions, c'est plutôt un contexte ou une manière de travailler qui m'a toujours intéressé plus que une épiphanie ou des phénomènes ou des moments précis. C'est plutôt une énergie qui permet de réaliser un certain nombre de choses.
Vous méfiez de la notion d'œuvre ?
Non, pas spécialement, mais je pense qu'elle est vraiment liée à la pratique de l'art et pas uniquement liée à la production d'œuvres.
Manu.
Alors justement, où en est la scène suisse, disons, au tournant des années 2000, hein, pour que votre génération, enfin en tout cas une partie de votre génération, se soit préoccupée de l'abstraction picturale, avec bien sûr en prenant acte de toute son histoire.
Ça, c'est une question assez difficile parce que bon, il y avait un contexte d'artistes avec des gens comme John Armleder, Olivier Mosset qui étaient très présents, d'autres beaucoup moins connus comme Christophe Kosweiler, mais qui appartenaient à cette génération d'artistes qui développaient un travail autour de la peinture abstraite, mais qui aussi pour chacun d'eux avait une pratique de l'exposition qui s'intéressait beaucoup à des artistes plus jeunes. Donc une grande partie du travail est liée à une forme de transmission. Donc c'est peut-être aussi ce lien qui existe entre ces deux éléments ou ces deux mondes.
Il y a quelques années, je crois que c'était l'année dernière ou il y a deux ans, vous aviez participé à la grande exposition Dynamo. C'était l'année dernière, exactement, au Grand Palais. Donc, une exposition qui revisitait l'histoire de l'art avec toute la dimension sur le mouvement et sur la lumière. Vous, quelle était l'œuvre ou le dispositif que vous aviez mis en place pour cette exposition, Philippe de Crozat ? Ça consistait en quoi ?
Il y en avait un certain nombre. Il y avait une série de tableaux qui étaient mis en regard d'autres tableaux. D'ailleurs, je citais Francesco Lo Savio, il y avait un petit tableau qui s'appelait Nick of Time, qui était presque un tableau anachronique par rapport à sa date de réalisation, car on retrouvait énormément de choses qui appartenaient à une histoire des années 50, et qui se dénonçait presque comme ça d'être là aujourd'hui, mais avec cette charge historique où il reprenait son titre d'une série de télévision et il finit par assimiler un certain nombre de données extérieures et il commente aussi une production visuelle à un certain moment.
Et vous ?
Et vous ?
Et vous ? Quelles étaient donc les œuvres que vous proposiez au regard ?
Mais c'était celle-ci.
Ah, c'était celle-ci.
Qui s'intitulait Nick of Time, qui était un petit tableau. Ça, c'était un des tableaux. Après, il y avait des ensembles plus importants qui étaient aussi exposés à ce moment-là.
Mathieu, retour en musique pour finir.
Avec Seattle No et ses musiciens, et Laurent, j'ai écorché plein de noms. J'ai donné des noms d'état civil, pas du tout. Donc c'est Brice Carquadio et Indy Dibong.
Il faut donner quel genre de nom alors, si vous ne donnez pas des noms d'état civil.
Je vous les donne là.
D'accord. Et ce ne sont pas des noms d'état civil.
Les noms de musiciens,
c'est voilà, d'accord.
Voilà. Donc c'est Brice Carquadio et Indy Dibong qui sont aux guitares, Valès Assouan à la basse, Mike Dibo à la batterie, Emmanuel Nubomo au sax et pour les chœurs Valérie Bellinga et Valérie Delgado. Dans la chanson qu'on va entendre, il est question de l'histoire de Yagine Koita et Fodé Tunkara, deux adolescents retrouvés morts dans le train d'atterrissage du vol 520 de Sabena en 1999. Yagine et Fodé, Seattle No en direct, c'est à vous.
Running away from misery. From poverty, running away from suffering. Oh, oh, think they found the solution. Story, true story, up to innocent but very young and tender. Hey, story, true. Yagine and Fodé, whose only dream was to go from Africa, still wondering how they entered that plane without the complicity of anyone. Went aboard that plane, leading to their death, and no one noticed them. We'll be right back.
Merci. Seattle No en direct sur France Culture. Ils seront en concert tous le 17 juillet au Jardin Suspendu, c'est au Havre. L'album African Woman, il est paru sous le label Luz Africa. Merci Alexandre Dang pour la prise de son.
Et l'homme s'aperçoit qu'il peut quitter la Terre.
Merci à nos invités. Sébastien Gokalp, la rétrospective de Lucio Fontana, c'est au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris jusqu'au 24 août. Le catalogue apparu aux éditions Paris Musée. Philippe de Crozat, Waywards of Seeing, c'est au FRAC Île-de-France jusqu'au 27 juillet, c'est-à-dire le plateau. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain.
Wenn sich die späten Nebel drehen, werde ich bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen.
Demain, une émission icône avec l'actrice Anna Chigoula et la réalisatrice Emma Danté. Et la session, ce sera Mathieu.
Oui.
Encore.
Oui.
Très bien. Lola, des annonces ?
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission que vous pouvez réécouter et podcaster sur le site franceculture.fr. Une émission préparée ce soir par Benoît Lagane, Manou Farine, Mathieu Conquet, Xavier Martinet, Claire Maillot, Lola Etanu et Anna Magimel. À la prise de son, Alex Dang et Dofar Guéride. Réalisation, Thomas Beau.
C'est un sans faute, il est 19h55, vous écoutez France Culture. C'est bien ? Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec les grandes lectures de France Culture sous un petit format. Et ce soir, eh bien, c'est toujours Denis Podalydès. Il fuit Pénélope. Non, il lit fuir Pénélope. Alors, bonne soirée à tous.